On trouve dans la Bible des récits très surprenants, étranges, qui nous interpellent, des récits qui nous bousculent. Ce récit de la transfiguration en fait partie. Quel mystère! Nous avons du mal à imaginer un Jésus étincelant qui discute avec Moïse et Élie au sommet d'une montagne. Non, il ne s'agit pas d'un miracle et il ne s'agit pas non plus de fantômes réapparaissants. Alors qu'est-il arrivé aux disciples? Est-ce une expérience mystique particulière? Est-ce qu'il apparaît pour une fois alors qu'il était avec eux juste quelques instants avant? Tout d'abord, d'où vient le mot transfiguration? Si on fait un tout petit peu d'analyse, c'est cette version originale de l'évangile qui employait le mot grec métamorphosis. Le Nouveau Testament nous dit que Jésus fait davantage que changer d'apparence et qu'il passe par une sorte de métamorphose, c'est-à-dire qu'il change d'état. C'est une transformation de son état profond. Dit d'une autre manière, cette métamorphose représenterait Dieu qui se donne à voir, Dieu qui se révèle une fois de plus à Jésus, surtout si vous vous souvenez qu'il y a eu une première fois au moment du baptême dans le Jourdain. La scène à laquelle nous assistons semble être celle un peu d'un théâtre où le surnaturel se conjugue avec le symbolisme. C'est un peu une mise en scène dans l'espace et dans le temps. D'abord dans l'espace, le lieu, on monte sur une haute montagne. En réalité, il s'agirait du mont Tabor qui ne fait qu'à peine 600 mètres. C'est une colline, tout au plus. Mais le récit parle bien d'une montagne. Nous plongeons cette fois dans la tradition de la révélation, ou de la suite des révélations. C'est en effet au sommet d'une montagne que Dieu se révèle à Abraham, à Moïse, à Élie, et plus tard à Jésus. C'est sur une montagne que Jésus prononcera son célèbre sermon. La montagne est liée à la volonté de Dieu et à la loi qu'il entend faire adopter, faire respecter. La montagne est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. La montagne est le lieu où l'homme se retrouve face à sa conscience. C'est sur le mont Sinaï que Moïse recevra les tables de la loi. Alors cette petite colline, elle a l'air minuscule, en fait, pour le géographe, mais elle est immense pour la foi. Après l'espace, le temps. L'Écriture nous dit que ce récit de la transfiguration se passe 6 jours après cet épisode où Jésus a annoncé qu'il allait bientôt souffrir, mis à mort et ressuscité 3 jours après. Pierre avait réagi en s'y opposant, et les disciples n'avaient pas encore bien compris ce que Jésus avait dit à ce moment-là. Dans le récit d'aujourd'hui, nous voyons que les disciples, et Pierre en particulier, n'ont toujours pas tout compris, puisqu'ils ne savaient que dire. Souvenez-vous du texte de Marc. Et c'est la raison pour laquelle aussi l'effroi les saisit, tout comme le fait d'être en présence de Dieu, on va le voir, à ce moment-là, et dans la Bible, à plusieurs moments où cela se produit, il y a un effroi qui se produit. Pierre, Jean et Jacques sont les disciples du cercle le plus restreint, le plus intime. C'est toujours eux que Jésus prend avec lui pour les moments qui ont de l'importance. Tout ce qui se passe là est fait pour eux, pour leur témoignage ensuite. Ils vont vivre dans quelques jours, finalement, la confrontation à l'arrestation de leur maître, à la peur, aux persécutions, au deuil et à la mort. Il est important, face à tout cela, de les assurer que Jésus est, quoi qu'il arrive, un vainqueur éclatant et sur toute la ligne. La transfiguration est donc en fait, avec un peu d'humour, une injection de vitamines pour aider les disciples à se préparer, à supporter ce qui va suivre. Lorsque le Christ les appelle à l'écart pour l'accompagner sur la montagne, il recherche aussi un moment mis à part, un moment de recul par rapport à ce monde et aux préoccupations quotidiennes. Un temps comme parfois nous pouvons nous-mêmes en avoir besoin, un lieu propice pour méditer, pour prier. Et la descente de la montagne sera ensuite le retour à l'action dans le monde. Dans notre vie aussi, nous avons besoin de cette alternance ou de cet équilibre entre la réflexion et l'action, entre un temps de recul et un temps d'engagement. Une vision fugace apparaît alors Jésus fut transfiguré devant eux. Quelle blancheur rayonnante de Jésus! Qu'est-ce qu'elle symbolise donc? Peut-être une conscience soudaine et lumineuse de la nature profonde de Dieu présent. La présence même de Dieu à ce moment-là, ce que les spécialistes appellent une théophanie, comme nous l'avons eu aussi un peu dans le boisson ardent pour Moïse. Puis maintenant, après la voix divine qui s'était faite entendre de Jésus baptisé dans les eaux du Jourdain et celle qui s'adressera plus tard aux femmes dans la tombe désertée du crucifié. Jésus reste en dialogue avec Moïse et Élie. Pourquoi Moïse? Pourquoi Élie? Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Au-delà de l'anachronisme, Jésus est avec eux. À égalité, semble-t-il, avec eux. Il faut se souvenir que dans la tradition juive la plus ancienne, on attend le retour d'Élie, lui qui est aux côtés de Dieu pour porter sa parole. Le cycle d'Élie dans la Bible est jalonné de gestes et de paroles qui ont de quoi le rapprocher de Moïse, le porteur de la loi et le porteur de l'observance de cette loi. C'est un peu un duo qui pourrait signifier que Moïse fait connaître un Dieu libérateur et qu'Élie montre comment vivre de cette liberté. Alors si Jésus apparaît à égalité avec Moïse et Élie, n'est-ce pas pour nous dire qu'il n'est pas suffisant de se conformer à la loi et qu'il n'est peut-être plus nécessaire d'attendre le retour d'Élie? Élie leur apparut avec Moïse et ils s'entretenaient avec Jésus. Quel est le sujet de leur discussion? Le récit de Marc ne nous dit rien. Il faut aller chercher dans Luc, qui décrit la même scène, Luc 9, 28 à 36, où il est dit qu'il parlait de son départ à Jérusalem, utilisant d'ailleurs le mot en grec « exodos », qui veut dire « l'exode ». Or, cette référence à l'exode, on revient en arrière, fait aussi référence à la fête des cabanes, autrement appelée la fête des tentes, le souvenir des habitations précaires à la sortie d'Égypte, quand il a fallu se mettre en marche. C'est l'habitation usuelle des scouts qui ne campent dans un endroit que pour un temps. La tente est la demeure idéale pour ne pas demeurer, pour être prêt au départ, prêt à poursuivre sa route. Le départ pour Jérusalem, c'est l'annonce à Jésus de son destin immédiat à venir, de sa marche prochaine vers la souffrance, vers la mise à mort et vers la croix. La vision, nous l'avons vue, est fugace. Vous aurez remarqué qu'ensuite Jésus demeure seul. Moïse et Élie s'effacent. Pour nous, cela a beaucoup de signification en tant que chrétiens attachés au Nouveau Testament, parce que Jésus n'est plus seulement à égalité avec Moïse et Élie. Il symbolise le fait que le Nouveau Testament est une révélation et que donc Jésus va les surpasser. Il finit par primer sur l'Ancien Testament. Le Dieu vengeur de l'Ancien Testament devient le Dieu sauveur du Nouveau Testament. Et Jésus est transfiguré comme Moïse avait été transfiguré. Jésus devient en quelque sorte le nouveau Moïse. Alors, si on redescend sur notre colline deux minutes, Pierre prend la parole et dit « Finalement, si tu veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il aimerait faire durer cet instant privilégié, car il se sent bien en haut de la montagne. Il voudrait organiser une partie de camping sauvage là-haut. Et surtout, y rester le plus longtemps possible. On a une belle vue. En fait, il n'a rien compris. En fait, il veut faire de la tente comme un lieu définitif. Alors que la tente est un lieu provisoire, celle du nomade, de ceux qui se mettent ensuite en mouvement. Pierre propose que la loi et les prophètes et ce que représente Jésus deviennent comme des statues immuables, instituées pour toujours. Un coup de théâtre, au contraire, se produit immédiatement ensuite, et de la nuée sortit la voix de Dieu. Vous avez entendu que dans l'Exode, la traduction disait « la fumée ». C'est en gros la même chose selon les traductions de la Bible. Et Dieu ne dicte plus les 613 mitzvot, ni dit commandements, mais dit simplement « celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». On passe de la loi écrite à la loi orale, de l'obéissance à un texte gravé dans le marbre à l'écoute de la parole, à une parole que l'on peut comprendre, et nous dirons quelques siècles plus tard, une parole que l'on peut interpréter plus librement. Jésus nous parle et nous sommes appelés à l'écouter. Le dialogue avec Moïse et Élie fait place au message de Dieu à travers Jésus transfiguré. Oui, cela ne va pas être une partie de plaisir. Oui, Jésus devra faire face à la souffrance et à la mort. Mais oui, aussi, Dieu pourra sauver Jésus du mal. Dieu assure à Jésus qu'il doit garder confiance, comme Dieu nous assure aussi à nous, qui sommes appelés à confier à Dieu notre route. Dieu nous assure aussi que nous serons sauvés par notre foi. La vision est fugace, elle est inscrite dans le temps. En revanche, la parole n'est pas inscrite dans le temps. Elle est intemporelle, c'est pourquoi la parole qu'entendent les disciples est supérieure à la vision de l'événement. Certains ont écrit sur ce texte qu'on passait de la contemplation, le visuel, à la communion, ou par la parole, dans l'intimité de Dieu, mais ensuite de Jésus seul avec ses disciples, il y a un vrai moment privilégié entre eux, qui ne se partage pas facilement avec l'extérieur. L'envie de fixation de Pierre va se métamorphoser, puisqu'au lieu de s'installer, ils vont tous redescendre de la montagne. Alors qu'ils étaient tombés effrayés face contre terre, les disciples sont relevés par Jésus, qui les rassure et leur permet de reprendre leur route. Sa parole est sortie de la nuée. Arrêtons-nous une minute là-dessus. Qu'est-ce que représente la nuée ? Ne serait-ce pas cette enveloppe pour nous donner confiance ? Est-ce que ce ne serait pas le symbole de l'Esprit qui descend sur nous, tous et toutes, et qui nous assure de l'universalité de la grâce ? La cabane représentait un peu le chacun pour soi, les tentes les unes à côté des autres, représentaient aucune réelle rencontre entre les uns et les autres. La nuée, au contraire, apparaît comme le lien qui, par la parole, nous unit et nous invite à aller à l'avant, mais ensemble, plus les uns à côté des autres. Aller de l'avant ensemble. Alors nous aussi, Dieu nous invite à nous relever. Donc à ressusciter, en grec, ce serait le même mot. Nous aussi, Dieu nous appelle à vivre notre foi dans le monde, au contact des autres, dans la réalité de chaque jour, porteur de la parole qu'il nous a lui-même transmise, et pas seulement dans des retraites contemplatives. On ne peut donner et partager que ce que nous avons nous-mêmes reçu. S'arrêter, contempler, prier, puis repartir, aller de l'avant pour mieux rejoindre les autres dans le monde, comme ils sont redescendus de la montagne après s'être recueillis sur cette colline. C'est à cela que nous invite cet étrange récit de la transfiguration. Avancer, oui, mais sans peur et sans crainte, en s'appuyant sur notre foi, gardant toujours courage à cause de la lumière éclatante qui rayonne de Jésus transfiguré et qui peut émaner aussi de chacun d'entre nous les croyants. Ah, petite référence historique, savez-vous que les auréoles ont été inventées au Moyen-Âge pour montrer que les chrétiens étaient habités d'une lumière vive, reçue d'en haut et qui rayonnait autour d'eux. Ce disque lumineux autour de la tête voulait dire « Voilà quelqu'un qui a su laisser vivre en lui la clarté majuscule de Dieu et qui sait aussi la diffuser autour de lui par ses paroles ou par ses actes. » Alors, attention, parce que aller de l'avant, ce n'est pas foncer tête baissée dans le mur. Nous devons sans cesse repenser Dieu, revenir en haut de la montagne, nous arrêter, prendre du recul et comprendre pourquoi transformer le monde et pas seulement l'exploiter à outrance. Chacun connaît ces moments de doute où l'on scrute le ciel et le monde autour de nous sans pour autant y déceler la présence de Dieu. Chacun connaît ces moments de doute où l'on ne comprend pas le sens du mal, où l'on souffre de la haine, d'une mauvaise santé ou de bien d'autres choses. Dans un cas comme dans l'autre, le message de Dieu est clair. Il nous désigne Jésus en nous disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Ce qui est caractéristique, c'est la manifestation que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. La transfiguration est, de ce point de vue, au centre de la foi chrétienne, comme il est au centre de l'évangile de Marc. Se mettre à l'écoute de Jésus, c'est prier, mais c'est avant tout et surtout se mettre à l'écoute de sa parole. La lire, la méditer, la transmettre. Tout cela pour qu'elle nous métamorphose à notre tour, ni en haut à nous dresser une tente dans des jardins idéalisés du Seigneur, ni en bas à nous débattre pour trouver des solutions à tous les problèmes du monde, mais plutôt à l'invitation de Jésus, tantôt en haut pour nous ressourcer, pour nous recharger de l'énergie de la foi, tantôt en bas pour apporter la force et le sens qu'il nous a donné. Partir avec le Christ, c'est avoir le courage de vivre, c'est s'adapter, c'est avancer avec confiance, car nous avons un Dieu fidèle. Écouter Jésus, c'est devenir rayonnant à notre tour, rayonnant de joie et de paix, rayonnant de foi, d'espérance et d'amour. Comme Pierre, Jacques ou Jean, nous sommes appelés à devenir les témoins de l'alliance que Dieu conclut avec ses enfants en Christ. Et grâce à l'Esprit de Dieu, à la lecture de sa parole, nous pouvons commencer à être transfigurés. Nous pouvons devenir des signes visibles de cette nouvelle alliance qui sauve et qui rend lumineux. Comme nous sommes invités à prendre le temps de la méditation, de l'écoute et de la prière, afin d'être nourris par l'Évangile et pouvoir ainsi apporter un peu de tendresse à notre monde, nous sommes aussi invités à aller de l'avant, à sortir de nos tentes et de nos temples pour être des témoins de l'amour du Père. Dieu nous transfigurera aussi et nous deviendrons source de lumière. Dieu pourvoira à nos besoins en toutes choses. N'ayez donc pas peur de vous mettre en marche, car Dieu vous couvre de sa nuée et Dieu vous inonde de sa lumière. Que nous soyons ainsi prêts à nous lever et à nous mettre en marche, et Christ nous guidera vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles du royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous la force de nous bouger, d'accepter de sortir de nos tentes, de partir sur le chemin et d'avancer. Fais de nous à notre tour des sources de lumière, des sources de tout bien, quoi qu'il arrive. Amen.